Bonjour et bienvenue au National, l'émission qui regroupe tous les sujets d'intérêt généraux traités au cours de la semaine à Canal M. Je suis Clotilde Seille. Dans le cadre des Paractualités, je m'entretenais hier avec Kevin Breton, co-animateur de Ça me regarde à Ami TV. Il a travaillé avec nous pendant un certain temps et puis nous l'avons perdu à regret. Mais par contre, nous sommes très heureux qu'il puisse s'adresser à vous quasiment tous les jours. Ah, quoique ça va peut-être changer, il va nous le dire. J'évoque ici, bien sûr, Kevin Breton qui est à l'autre bout. Bonjour, Kevin.
Allô, Clotilde. Très heureux de te retrouver, toi et tous les auditeurs du Canal M.
Ben, c'est très gentil. Écoute, nous aussi. Alors, te voici, parce que je ne l'ai pas encore dit, te voici maintenant depuis presque un an maintenant. Hein?
Ça fait un peu plus que 6 mois. En fait.
Un peu plus que 6 mois, mon ouais. Dieu. 6 mois déjà sur Ami Télé.
Voilà.
Et sur Ami Télé, c'est toi qui as entre autres, on va se tutoyer, hein, puisque tu m'as tutoyé malheureusement.
Oui.
Non, parce qu'on ne va pas faire semblant quand même. Kevin, c'est toi qui as repris les rênes de l'émission Ça me regarde, avec notamment Christine Rousseau. Mais là, il y a un nouveau déchangement à cette émission-là. Explique-nous ça un petit peu.
Oui, donc l'émission en question, c'est Ça me regarde,
ouais.
Sur Ami Télé. On connaissait déjà donc la formule précédente qui a fait tout le succès des deux premières saisons, alors que Luc Fortin était à la barre de l'émission. L'année dernière, il y a eu du changement. Donc, moi et Christine Rousseau, que vous connaissez également, Canal M, on s'est partagé la tâche. Donc, moi, je faisais environ 2 émissions par semaine et elle, une.
Oui.
Et cette année, nouveauté, on passe à un format d'1 heure le samedi à midi. Et ce sera co-animé avec Christine. Donc, j'aurai le bonheur de recevoir toutes sortes d'invités les plus intéressants les uns que les autres. Mais je vais partager la tâche cette fois avec Christine.
Mais alors, qu'est-ce qui va se passer en semaine?
En semaine, il y aura toujours plusieurs émissions sur les ondes d'Ami Télé. Il y a d'ailleurs une nouvelle émission qui a vu le jour cette saison-ci qui s'appelle Ami Télé 360.
Oui.
Donc, c'était la première dimanche dernier. Ça, c'est un nouveau projet que je copilote avec notre journaliste sur le terrain ici, Jessie Archambault, que je vois pas souvent en dehors des heures de tournage parce qu'elle est tout le temps sur la route.
Oui, j'imagine.
On sait que le milieu des personnes handicapées en est un très, très actif. Donc, elle se met le nez un peu partout dans l'action et elle nous rapporte des reportages. Et la particularité de cette émission-là, puisqu'on sait qu'Ami Télé est diffusée d'un océan à l'autre, c'est qu'on va prendre des brèves des autres équipes sur le terrain, à Edmonton, Halifax, Toronto.
Okay.
Et on les représente doublés en français, bien sûr, sur nos ondes. C'est un segment qui revient à chaque émission d'Ami Télé 360.
Bon, et quel... à Ça me regarde, je voudrais qu'on revienne un petit peu, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai failli le vous voyez. Aucune importance. Ça me regarde, on va rester sur les mêmes sujets qu'auparavant, Kevin?
Oui, tout à fait, parce que c'est plus dans la formule qui diffère, parce que comme à l'habitude, on garde nos chroniqueurs. Donc, c'est un magazine de service, donc on va continuer de voir...
Qui sont-ils?
Monsieur Cousineau, je pense que vous le connaissez
vaguement. En littérature, évidemment, entre autres. Oui.
On a notre conteur, François Beauregard, qui vient nous présenter des chapitres de l'histoire, des personnages marquants de l'histoire des personnes avec un handicap. La chronique techno, qui est toujours extrêmement populaire, donc on présente... des applications, notamment, qui facilitent la vie des gens avec une basse vision. Surtout la chronique sport, qui est probablement ma chronique préférée, étant donné que je suis un amateur. C'est bien.
Oui, je m'en souviens bien.
On a également la chronique trucs et trouvailles, puisqu'on a une petite furteuse, Audrey Metcalf, qui se promène dans les allées de magasins, qui va dans des points de service, dans des boutiques, qui nous ramène des petits trucs pour la cuisine, pour la vie de tous les jours, qui aident les gens.
Mm-hmm.
Mais sinon, on reçoit également des invités, et ce sont des visages, des voix qu'on a déjà entendues, évidemment.
Des exemples.
Absolument. C'est sûr qu'il y a un sujet qui a fait beaucoup parler, fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, c'est concernant les traitements thérapeutiques pour les maladies des yeux à Cuba. donc pour la rétinite pigmentaire et également pour la maladie de Stargardt. On sait que ma co-animatrice Christine Rousseau elle-même a la maladie de Stargardt. Donc, parmi nos prochains invités, il y a la docteure Cynthia Kian, là, qui est vraiment une référence en la matière de la Société canadienne d'ophtalmologie, qui va passer à nos studios pour nous éclaircir sur ce sujet qui fait pas l'unanimité.
C'est ça, hein? Parce que on se dit oui, c'est bien, mais prudence, quoi.
Hein? Exact. Voilà. Donc,
bon,
on va essayer de faire le point sur ça. Sinon, toujours des reportages. On est allé tester l'accessibilité des nouveaux wagons Azur qui sont en service et qui vont graduellement apparaître sur la ligne de métro Orange à la STM. Donc, on est allé les tester à savoir s'ils sont mieux que les modèles précédents. Ça fait également partie de l'agenda pour les prochaines
Très intéressant.
Émissions. Donc, on continue de parler beaucoup de handicap, handicap visuel, handicap physique, également, sans oublier la communauté sourde. Et des fois, on va ici et là parler d'autres maladies comme le Parkinson ou l'Alzheimer.
Et Ami Télé 360, d'un océan à l'autre, hein, c'est bien le titre. Alors là, par contre, vous allez vraiment taper d'est en ouest, comme on dit ici. Et avec, si je vous ai bien compris, des reportages qui vont nous arriver d'un petit peu partout au Canada.
Exactement. Donc, comme on a pu voir lors de la première dimanche dernière et qui est également disponible sur le site amitélé.ca si vous voulez la réécouter. En fin d'émission, il y a un blog qui est une espèce de compilation de montage de 3 ou 4 reportages qui ont attiré notre attention à travers le pays parce que Ami Télé a des filières un peu partout à travers le Canada. Donc là, on profite de leur travail pour reprendre les reportages, les doubler en français et les présenter. Et sinon, c'est composé d'autres reportages qui sont faits par Jessie Archambault à Montréal, mais aussi ailleurs parce que on a également des réalisateurs à Québec et on se promène un peu partout dans la province.
Moi, j'ai une prévision et je vous prédis pour cette émission-là que ça ne va pas rester mensuel, ça.
Vous allez avoir... Peut-être, ça va donner des idées à notre productrice.
Ben, en tout cas, moi, je serai vous, je pousserai un peu parce qu'il me semble qu'il va y avoir tellement de choses à traiter, tellement, qu'une par mois, là. Oh que oui. Et fort intéressante. Alors, c'est pour ça, je pense que Ami Télé à la télévision, Canal M, nous ici à la radio, il est évident que c'est un service essentiel, Kevin, et je vous remercie beaucoup. Et non, on ne vous en veut pas du tout que vous soyez parti. Et on est très, très heureux pour vous et très heureux pour les spectateurs d'Ami Télé de vous avoir dans leur petit écran aussi souvent.
Merci beaucoup. Continue ton bon travail.
Salut, Kevin.
À bientôt.
À bientôt. Bye. Je vous rappelle que les paractualités vous sont offertes du lundi au jeudi sur nos ondes de 11h30 à midi. Le 5 octobre, on pouvait y entendre ceci. Pour une stratégie de réduction de la pauvreté, le ministre Duclos diffuse un document de discussion avant la tenue des consultations. Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer une stratégie canadienne de réduction de la pauvreté et il tiendra en 2017 des consultations auprès des Canadiens afin de connaître leur point de vue, ce qui l'aidera à élaborer cette stratégie. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a présenté ce document hier, 4 octobre, intitulé « Pour une stratégie de réduction de la pauvreté ». Il a présenté cela aux membres du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées. Ce document, qui vise à amorcer un dialogue au sujet de la réduction de la pauvreté au Canada, présente le contexte et fournit des renseignements de base sur cet enjeu important. Les personnes et les organisations intéressées peuvent examiner ce document de discussion avant le début du vaste processus de consultation. Ça nous vient évidemment d'Emploi et Développement Social Canada. D'ailleurs, si vous désirez connaître la teneur de ce rapport et de ce document pour une stratégie de réduction de la pauvreté, nous vous engageons à aller sur le site du gouvernement du Canada, / Emploi et Développement Social Canada. Sombre. Les pensées qui nous encombrent. Alors que sous les décombres, sous le rideau de fumée, vivent.
Des rêves déraisonnables. Amours indéracinables. Des étoiles à la dérive. Des feux jamais consumés. Jamais consumé.
Auteur prolifique, acteur respecté, Robert Lalonde est cette semaine l'invité d'honneur des Livres pleins les oreilles. Il nous présente Le Petit Voleur. Alors nous y voilà avec Robert Lalonde, voilà. Et avec ce livre, Le Petit Voleur, que j'ai, je l'ai dit, je le redis, que j'ai vraiment dégusté. Bon, c'est vrai que j'aime bien Tchekhov, mais c'est pas non plus quelqu'un, je pense pas, d'aussi important dans ma vie que pour la vôtre.
Non,
parce que
peut-être.
J'imagine que quand on écrit comme ça un livre où Tchekhov tient un des premiers rôles, on doit l'aimer beaucoup.
On l'aime beaucoup et il est mythique pour nous aussi, oui. Du côté du théâtre, parce que c'est quelqu'un qui est... sur lequel d'ailleurs tout le monde se chicane. Comment, oui. On doit jouer ça? Est-ce que c'est des comédies? Est-ce qu'on doit pleurer,
c'est
dans
vrai.
Ses pièces? Est-ce que... Donc on s'est d'abord intéressé à lui par le théâtre et ensuite ses nouvelles et ses courts romans. Et puis beaucoup sa correspondance, parce qu'il a beaucoup écrit à beaucoup de monde. Moi, je me suis beaucoup abreuvé de cette correspondance pour écrire le livre, parce qu'il, c'est un philosophe aussi. C'est quelqu'un qui, je crois, pose les bases de ce qu'on a appelé la modernité en littérature, c'est-à-dire écrire des histoires sans faire la morale au lecteur, sans mettre forcément un début, un milieu, une conclusion. Il a semé, je dirais, la base de ce qui est devenu l'écriture moderne. Je pense à quelqu'un comme Alice Munro, par exemple, qui a gagné le prix Nobel récemment.
Oui.
Le grand modèle de ces écrivains-là, c'est Tchekhov, parce qu'il a permis à ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire la possibilité que notre vie soit une navigation sans étoiles et non pas une histoire toute tracée d'avance, et que la vie est une série d'accidents et non pas un parcours fléché qu'on suit à la lettre. Tchekhov avait horreur des biographies. J'espère qu'il ne sera pas mécontent là où il est, que je l'ai un petit peu mis en scène là-dedans. Je pense qu'il trouverait plutôt ça rigolo.
Moi, j'en suis convaincue. Et puis alors, il y a un deuxième personnage.
Oui,
le petit gars qui se fait appeler, parce que ce n'est pas son vrai nom, il se fait appeler Yegorushka. Ça, c'est une référence à un personnage de la steppe.
De la steppe.
Hein, c'est bien ça. Auriez-vous aimé, vous, être un peu le Yegorushka d'un...
Ben, je l'ai été. Je pense que pour aborder la notion de transmission, parce qu'elle est très importante pour moi, de savoir et de faire savoir qu'on n'écrit pas tout seul et qu'on a été, qu'on a été parrainé concrètement par quelqu'un, ou que des écrivains aient été des influences déterminantes, ça a été le cas pour moi. Et j'ai énormément de reconnaissance à plein de gens qui m'ont beaucoup aidé aussi au début de ma carrière. Les gens qui m'ont aidé dans mon travail, ce ne sont pas les professeurs, ce sont les écrivains.
Ce sont les écrivains.
Donc j'essaie de transmettre un peu ça, de redonner à César ce qui appartient à César. Et en même temps, puisque je suis acteur, je me permets de me glisser dans la peau du personnage.
Mais
puisque
oui.
J'ai l'impression de le connaître assez bien. Et que c'est mon travail aussi à moi d'incarner quelquefois des gens qui ne sont pas moi. On ne sait pas d'ailleurs dans mon livre par moment qui parle, si c'est Tchekhov ou
Zéro. Alors là, vous m'enlevez de la bouche exactement la prochaine question, parce que honnêtement, à chaque page, je me demandais, ça c'est du Tchekhov ou c'est du Lalonde? Attendez, j'ai noté. Bon, évidemment, il y a cette phrase qui ressort beaucoup et dont d'ailleurs on a fait grand cas dans les médias lorsque votre livre est sorti. C'est cette phrase que j'ai tellement trouvée fantastique. Si vous craignez la solitude, ne tombez pas amoureux. C'est en page 44. Alors, c'est Robert Lalonde ou c'est Tchekhov?
Non, ça c'est Tchekhov.
C'est Tchekhov.
C'est
bon.
Tchekhov dans ses lettres. Et quelquefois, ça m'amuse beaucoup aussi, je l'avais fait avec Marguerite Yourcenar également, que le lecteur ne soit pas dans un jeu de signes de piste aussi pour essayer de savoir qui a écrit quoi. Je mêle un peu moi et mon appropriation de Tchekhov
oui,
lui-même.
Comprends.
Et ça m'apparaît une chose qui est d'abord beaucoup plus facile et aisée pour le lecteur que d'avoir continuellement des notes en bas de page, d'où ça
bien
vient.
Sûr.
Ça vient. Chez les gens, ça les amuse, et j'espère que ce sera le cas d'aller dans Tchekhov même, oui, essayer de le retrouver.
Exactement. Entre autres, on va avoir envie de retrouver la mouette. Il est tellement dur avec sa pièce.
Il est dur avec lui-même.
Avec sa pièce. Avec son écriture, avec sa vie.
Je reconnais ça tout à fait moi-même.
C'est vrai? Oui. Oh là là, il est dur. Alors, oui. Et alors donc, évidemment, il est dur avec ce jeune, parce que quand même, mettons un petit peu en scène là, ce qui se passe dans ce livre-là. Il s'agit d'une rencontre qui finalement ne se fera jamais, voilà, entre un jeune homme, mm-hmm, qui tombe éperdument amoureux, je ne sais pas, enfin en tout cas qui voue une profonde admiration aux écrits et à l'homme,
du maître,
qui décide du jour au lendemain de prendre un train et d'aller rejoindre cet homme-là. Sauf qu'au même moment où il prend le train, cet homme-là, qui est donc Tchekhov, qui est médecin, mais qui va pas bien,
il est malade.
Il est tuberculeux, même s'il écrit à un moment donné, non, il n'y a rien de grave.
Il n'a jamais pris son état au sérieux, il aurait sans doute dû, mais non.
Et donc lui-même, à ce moment-là, prend un train pour partir, pour aller rejoindre la Côte d'Azur avec des petites haltes en Allemagne, en Pologne, à Paris, où il a tellement hâte d'aller, puis finalement, où il s'emmerde à mourir. Enfin, c'est vrai. Oui. Et donc, il finit à Nice.
Oui.
Alors donc, cette rencontre-là ne se fera jamais. Et ce qui est intéressant, et ça, je pense qu'on peut le dire, c'est que dans le train qui amène ce jeune vers cette destination où il ne rencontrera jamais le maître, il va par contre rencontrer l'amour.
Mm-hmm.
Mais Tchekhov aussi.
Mmh. Et Tchekhov aussi de son côté. Et les deux sont extraordinairement malheureux d'être amoureux. Et seuls l'écrivent l'un à l'autre. Donc la rencontre est épistolaire en fait, puisqu'ils ne se voient pas.
Non, c'est ça.
Et ce garçon passera un grand moment chez Tchekhov, à Milikovo, mais avec la famille de Tchekhov, son frère Micha, la sœur Macha.
Qu'ils prennent sous leur aile.
Qui ont pitié de lui un peu, ce pauvre petit garçon, qui ils disent, mais reste quand même, puisque tu as fait tout ce chemin.
Ben oui.
Donc c'est toute la rencontre, c'est un livre d'initiation en fait, c'est comment ce jeune garçon est initié à la vie elle-même, à certaines désillusions, bien sûr, et à cette rencontre avec l'écriture qu'il finira par être inévitable pour lui, parce qu'il aura ce qu'il mérite d'avoir voulu écrire, il sera obligé d'y aller.
Alors, une véritable leçon d'écriture qu'il faut que je vous lise, parce que vraiment, alors ça m'a... J'ai écrit, chaque phrase est essentielle. Yegor, mon petit, donc écrit Tchekhov à Yegorushka, Yegor, mon petit, ne lèche pas tes phrases, ne les polis pas, sois gauche et insolent, la brièveté est cœur du talent. Ah, c'est quand je dis, il n'y a rien qui manque. Ce qui est, en plus, parce que là, c'est écrit comme il souhaita qu'on l'écrive.
Oui,
monsieur.
Tout à fait.
Ah, d'accord, on est bien d'accord. Ce qui est bien dans l'art, c'est qu'il rend le mensonge impossible. C'est qu'il rend le mensonge impossible. On peut mentir en amour, en politique et même en médecine, mais il est impossible de tromper dans l'art. Aie confiance, mais ne t'abuse pas. Travaille comme l'athlète qui persévère malgré la fatigue et les courbatures.
Ouais.
C'est une leçon d'écriture comme ça. On pense à Rilke, évidemment.
On pense aux lettres à un jeune poète. Oui.
Évidemment. Quel est le poète qui n'a pas souhaité avoir un Rilke dans sa vie? Oui. Êtes-vous le Tchekhov de quelqu'un?
Je crois que oui.
C'est vrai?
Je crois que oui.
Avec qui vous avez une correspondance?
J'ai d'abord des correspondances et surtout un travail de mentorat dans l'écriture. Je l'ai fait avec plusieurs écrivains. J'ai été enseignant moi-même pendant des années en création littéraire, donc je continue à suivre des écrivains. Dont des jeunes écrivains qui, chaque année, je les vois, certains d'entre eux, publier des trucs et me dire des choses extrêmement complimenteuses, alors que tout le mérite leur revient à eux, bien sûr, pas à moi.
Alors, on le disait, il est dur avec lui-même. Il était aussi compliqué que ça, parce que je le trouve parfois d'une complexité incroyable à le bonhomme, surtout en tant qu'auteur. Je cite encore une fois monsieur Lalonde. Ces livres publiés le dégoûtent. Enfin, ça c'est Lalonde, c'est le narrateur. Les compliments l'assomment. Les critiques ne lui font ni chaud ni froid. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va mal, le bonhomme. Son âme n'est plus une âme, mais un muscle déchiré qui ballotte au fond de lui. Il doit se cacher quelque part, oui, et attendre. Et puis se remettre à écrire, cette fois passionnément, subjectivement et en y mettant le temps. Non plus 20 pages par jour, mais 4 tout au plus. Et puis lire et en finir avec son effrayante ignorance de Moudjik.
C'est comme ça qu'il se percevait. Tchekhov a commencé à écrire sur des coins de table de taverne des histoires très courtes qu'il a publiées dans les journaux, qu'il a immensément regretté après parce qu'il trouvait que c'était écrit trop vite et n'importe comment. Il y a une métamorphose chez cet homme-là, comme il y en a une chez moi, d'ailleurs, je reconnais ça tout à fait, de l'écrivaillon un petit peu sentimental qui parlait un peu de lui-même et de sa vie personnelle et des quelques personnages autour de lui, à quelqu'un qui a élargi totalement son point de vue sur le monde, qui est devenu un écrivain extrêmement sobre, direct, moderne, je dirais, complètement, en l'espace de quelques années. Et je crois beaucoup à cette... C'est pour ça qu'il est très, très proche de ce jeune garçon qui lui écrit, parce qu'il a lui-même subi une métamorphose que la vie l'a obligé à faire et de laquelle il est convaincu. Il se dit, tu dois traverser les innombrables cerceaux de feu pour y arriver, mais il n'y a pas d'autre façon. Et puis, c'était un livre aussi que je voulais destiner à mes contemporains, à savoir que ça n'est pas la célébrité là, qui compte, c'est le travail.
Bien sûr.
On est dans une époque un petit peu comme ça. Pour avoir enseigné pendant des années, je sais comment beaucoup de gens veulent être des écrivains, mais écrire ne les intéresse pas suffisamment. Le travail n'est pas toujours très, très apprécié, très valorisé. Il faudrait y arriver du premier coup. Tchekhov refait 25 fois les pages. Alors, c'est pour ça qu'il y a des moments comme celui-là où il est lassé de son travail parce qu'il trouve qu'il est un forçat. Il y a ce grand passage où il s'évade à l'île de Sakhaline où il va rencontrer des prisonniers qui souffrent. On se demande qu'est-ce qu'il va faire là.
C'est vrai.
Il s'en va tout simplement répertorier les malheurs humains auxquels il va assister. Personne dans son entourage a compris pourquoi il faisait ça.
Il a besoin de matière.
Voilà. Il a besoin de matière et il a besoin de se convaincre que la raison ne domine pas l'humanité, le chaos est total. On ne pourra pas dire qu'aujourd'hui, la chose soit tellement...
Améliorée ni changée.
Améliorée ni changée.
Non, certes. Vous avez joué du Tchekhov?
Oui.
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 Dans La Cerisée, dans La Mouette.
J'ai même monté La Mouette au théâtre.
Oui, c'est ça, vous l'avez monté vous-même.
Et puis, c'est absolument sans fin la façon qu'on a les acteurs de creuser quand on joue une de ses pièces à lui, parce que Tchekhov ne nous dit pas quoi faire, ne juge pas le personnage. Il faut s'en faire une idée totalement soi-même quand on joue. Il écrivait à ses acteurs, par exemple, « Vous ne pouvez pas jouer ça comme ça, vous avez des souliers propres. Ce personnage ne peut pas avoir des souliers propres. » Il était laconique comme ça très souvent. Il disait aux acteurs, vous pleurez tout le temps, vous pas pleurer, il faut pas pleurer dans mes pièces, il faut faire pleurer les gens peut-être, mais si vous vous mettez à pleurer, c'est fini. On ne vous voit que essayer de chercher un mouchoir pour vous essuyer les yeux. Les personnes qui doivent pleurer, c'est le public, c'est les gens. Donc même là, ce sont des choses qui sont restées comme des espèces d'aphorismes qu'il dirigeait aux acteurs, aux metteurs en scène et aux auteurs de nouvelles et de romans, qui restent encore aujourd'hui une espèce d'école par laquelle, moi, quand j'enseignais la littérature, j'essayais de faire passer les étudiants. Enlevez-moi tous ces adjectifs. Essayez de savoir de quoi vous parlez et non pas de nous faire croire que vous êtes... Essayez pas de raconter une histoire qui se passe sur un bateau si vous aimez pas l'eau. C'est pas la peine. Si vous êtes jamais allé sur l'eau, n'y pensez pas. Vous allez passer 2 ans à écrire des pamphlets touristiques sur l'eau. Alors, il y a toute cette espèce d'école qui est derrière le personnage et l'œuvre de Tchekhov. Sur laquelle moi je me suis reposé longtemps et à laquelle je reviens quand j'ai peut-être tendance moi-même à me perdre dans mon travail.
Ah oui, hein?
Je retourne à ces aphorismes d'écrivains qui sont surtout dans ces lettres en me disant oui, ne te prends pas pour autre chose que ce que tu es, vas-y avec ce que tu as.
Alors surtout dans ces lettres, Robert Lalande, si cet homme-là pouvait voir de là où il est ce qu'on fait de ces lettres et à quel point ce sont des références, notamment pour vous mais pour tant d'autres, il en serait certainement très heureux parce que justement, cet homme-là, bon, en tout cas dans le livre, ce qui est dit, c'est qu'il écrit souvent et à cette flamme qu'il a, pour qui d'ailleurs il va écrire la Cerisée, écrit souvent à ce jeune garçon parce que les mots lui manquent pour écrire, point.
Oui, voilà.
Il en serait très heureux.
Il en serait très heureux, mais il l'a quand même un petit peu prévu, non pas pour lui-même, parce qu'il n'avait une modestie fondamentale, mais il disait « dans 100 ans ». Probablement que mon travail sera apprécié à sa juste valeur. Et c'est effectivement le cas. Il a eu une longue période de purgatoire et depuis une 50aine d'années, 30 ans encore, pour être plus juste, La résurrection de Tchekhov est extraordinaire.
Ouais.
Il revient et les gens ne le lisent pas comme un auteur de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, mais comme un auteur très moderne, très actuel.
Et en plus, il nous redonne envie de lire tous les grands russes, non pas tous, mais Tolstoï, tout ça, enfin.
Turgenev, Tolstoï.
Voilà, c'est ça. On a très envie de se plonger là-dedans dès qu'on a refermé ce livre, Le Petit Voleur, dont je suis en train de parler. Si vous venez juste de vous joindre à nous avec Robert Lalonde, son auteur, vous remerciez toute mon admiration et mes remerciements les plus vifs à la toute fin du livre, évidemment à Anton Tchekhov, à Guy de Maupassant, ce qui n'est pas surprenant non plus, il en est beaucoup question. Maxime Gorky, là, j'ai pas vu.
Ben, il a une question un petit peu, mais c'est surtout, ça a été un des premiers disciples de Tchekhov. Hein. Gorky a toujours dit, si vous n'aviez pas existé, si vous ne m'aviez pas parlé de mes livres, j'aurais été extrêmement complaisant et j'aurais fini par écrire des romans de gare. Donc, je me suis un petit peu servi aussi de la correspondance entre Gorky et...
Et je ne connais pas...
Constantin Paoustovski. Je conseille d'aller voir tout ça. Il a écrit en 10 tomes l'histoire d'une vie qui traverse toute la Russie des années de la Révolution jusqu'aux années 60 à peu près. Et c'est probablement l'écrivain russe, selon moi, qui parle le mieux de tout ce qui est, je dirais, le côté provincial de la Russie. Ce n'était pas un moscovite du tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup habité différentes régions de la Russie. Et on voit comment tous ces villages et ces gens-là vivent, et il le raconte d'une façon merveilleuse. Donc il y a des petites choses que je lui ai empruntées.
Ok, donc Monsieur Paoustovski, je vais vous l'appeler Paoustovski.
Grand livre s'appelle L'histoire d'une vie, c'est sur une dizaine de tomes, c'est absolument passionnant. Allez.
Vous en avez commencé un 27e ? Robert,
oui, bien sûr.
Ça y est.
On peut-tu savoir de quoi il s'agit?
Ce serait un carnet d'écrivain cette fois. C'est toujours ma relation entre mon travail, la vie, la nature et surtout les livres des autres. Parce que je considère qu'on n'écrit pas tout seul, on écrit avec plein d'autres écrivains. Oui. Donc je refais un petit peu ma petite république des lettres à moi dans ces carnets-là essayant de remettre au goût du jour des gens qui n'auraient jamais dû en disparaître, c'est-à-dire des écrivains primordiaux pour moi. Ça va s'appeler Quelque le champ nom. De blé de Van Gogh, parce que c'est ce que Jean Giono disait du champ de blé de Van Gogh. C'est un champ de blé, mais c'est surtout le champ de blé de Van Gogh. Ça n'est pas vraiment... Il faut se surajouter aux choses dont on parle pour que ça prenne un sens.
En quelques secondes, 30 secondes, et l'acteur là-dedans, Robert Lalonde, il est où, il fait quoi en ce moment, l'acteur?
Il obéit, parce que c'est un état d'obéissance, celui d'être acteur. C'est un merveilleux état d'esclavage que j'adore, parce que quand on écrit, il faut tout faire. Mais quand on joue, on n'a qu'une seule partition à faire. Les autres s'occupent du reste. Là, je fais une série télé qui s'appelle Au secours de Béatrice. Je vais faire dans quelques jours un spectacle dans le cadre du Festival de littérature, en lisant les textes français de Jack Kerouac.
Dont nous avons parlé déjà à l'émission.
Vous avez parlé déjà.
Merci beaucoup,
je vous
Robert Lalonde.
Ça m'a fait plaisir,
au revoir.
Le temps qu'on en parle.
Merci, salut. Restez des nôtres, ne manquez pas des extraits passionnants des émissions C'est bon pour la santé et Portrait de famille, dans quelques secondes. Le National, seconde partie. Cette semaine à Portrait de famille, Marianne Paquette recevait Christian Lapointe. Monsieur Lapointe participe à l'entrevue que Stéphanie Deslauriers a accordée à notre animatrice. Voici cet extrait.
Stéphanie Deslauriers, bonjour.
Bonjour Marianne.
Vous êtes psychoéducatrice conférencière et auteure de ce livre qui pourrait être un très bon outil, Jeux d'enfants, leur juste sur l'intimidation. Évidemment, aujourd'hui, on aborde l'intimidation dans un angle différent, c'est-à-dire lorsque l'on est différent. Est-ce que c'est inévitable de vivre de l'intimidation lorsque l'on vit avec un handicap?
Non. En fait, ce qu'on va dire, c'est qu'avoir une différence physique ou même au niveau du fonctionnement du cerveau, je pense aux troubles neurologiques, l'autisme, etc., c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. Donc, ça augmente la probabilité qu'une situation d'intimidation survienne, mais ce n'est pas un prédicateur. Et ceci étant dit, plus on a de facteurs de risque, plus on est à risque, et non seulement en raison de l'accumulation des facteurs de risque, mais en raison de l'interaction de ces facteurs de risque-là.
Les facteurs de risque, oui, ça peut être, bien sûr, une différence, mm-hmm. mais ça pourrait être juste d'être différent parce que notre boîte à lunch n'est pas à la mode ou parce que mm-hmm. nos vêtements sont un peu élimés. Là.
Tout à fait, tout à fait. Ça peut être ce type de différence-là qui est visible. Ça peut être aussi un enfant qui a une plus faible estime personnelle, qui a moins confiance en lui, qui a de moins bonnes habiletés sociales, qui est plus isolé socialement. On pense surtout aux primaires, les enfants qui ont un trouble d'hyperactivité sont plus à risque parce qu'ils dérangent, on les pointe plus du doigt. J'ai pas envie de me mettre en équipe avec lui. Ou il est impulsif, il est pas fin, alors on le met de côté. Donc, toutes ces différences-là mettent davantage à risque, mais ce serait faux de dire que 100% des personnes, par exemple, de petite taille vont vivre de l'intimidation.
Oui. Et ça peut commencer assez tôt parce que Christiane disait tout à l'heure que Rémi, à 3 ans, à la garderie, oui. déjà vivait ça, c'est-à-dire des enfants qui disaient mm-hmm. « Moi, je veux pas jouer avec lui parce qu'il est différent, parce oui. qu'il est petit. Ouais, » Comment on aborde ça avec un enfant aussi jeune?
Bien, en fait, tout à l'heure, Christian, vous parliez justement de l'activité de sensibilisation que vous avez fait. Je trouve que c'est génial. Puis vous l'avez bien nommé tout à l'heure, hein? Les préjugés, ça découle de la méconnaissance. On ne connaît pas, notre cerveau est paresseux. Il a besoin d'étiquettes et de catégories. Donc, quand tu es différent, je te mets dans cette catégorie-là de « c'est bizarre, je connais pas ça, alors je n'ai pas envie, j'ai pas envie d'être en interaction avec toi. » Mais à partir du moment où on apprend aux enfants en leur mettant des mots et mm-hmm. d'autres nouvelles étiquettes où justement on va parler plus de différence, d'unicité, où on va expliquer, ben moi, mes os, ils grandissent moins rapidement, ils prennent ouais. plus leur temps pour grandir et on a un langage adapté, vulgarisé, ben à ce moment-là, ah, OK, oups, les petites catégories changent. Et là, on n'est plus dans la crainte, donc dans l'exclusion, mais dans la compréhension et de dire, ah, ben c'est pas dangereux, alors je peux jouer ouais. avec cette personne-là, ça va être ouais, agréable. Oui.
C'est pas une façon aussi, tout ça, de donner confiance à son enfant parce que, vous le disiez, Stéphanie, l'un des facteurs de risque est également une mauvaise confiance en soi. Ouais. Si l'enfant a les mots qui lui viennent facilement, il arrive à plus se débrouiller.
Exactement, à s'affirmer aussi. Ouais. Puis ça, ça fait toute la différence. C'est au-delà des mots, dans son attitude, dans sa posture, dans son ton de voix, le port ouais. de tête, tout ça. Ah, OK, quelqu'un qui est assumé, affirmé, ben c'est agréable au niveau social. C'est le fun de côtoyer ces enfants-là. Alors, l'enfant a plus de probabilité de se faire inclure mmh. à ce moment-là.
Comme Christian a lui-même ouais. vécu de l'intimidation, peut-être un petit peu lorsque vous étiez jeune, vous avez rapidement détecté les signaux. C'est pas évident pour tous les parents de le faire. On identifie comment l'intimidation qui est vécue par notre enfant.
En fait, les signaux qu'on peut avoir, surtout, bon, là, on parlait de Rémi qui avait 3 ans, donc tout jeune, fait que ça va pas être nécessairement qu'il va le dévoiler avec de grands ben oui. discours. Mais parfois, ça peut être des petits commentaires qui vont passer. « Oh, les amis voulaient pas jouer avec moi, par exemple. » Sinon, si on l'apprend pas verbalement, ça peut être des changements dans le comportement de notre enfant. Ça peut être, par exemple, au niveau de l'alimentation. Il a moins faim ou il mange ses émotions. Ça peut être au niveau du sommeil. Il y a de la misère à s'endormir. Il y a de la misère à se détendre, à se laisser aller. Un enfant qui a toujours aimé à la garderie, tout d'un coup, il n'a plus envie d'y aller, fait des grosses crises pour ne pas y aller, pour essayer d'éviter les endroits finalement où il vit des situations menaçantes pour mm-hmm. son intégrité psychologique et physique. Fait que ça peut être des signaux. Ça peut être aussi une baisse justement dans l'estime personnelle. Un enfant qui va plus se tomber sur la tomate, comme on dit, ou encore qui va moins essayer de nouvelles choses, qui a peur de plus en plus d'échouer, alors que ce n'était pas nécessairement dans sa mm-hmm. personnalité avant. Ça peut être aussi au niveau des signaux physiques. Hein, le cerveau, autant il peut être paresseux, mais autant il peut être très, très fort. Alors, va envoyer des signaux. « Ah, est donc mal au ventre » ou « est mal à la tête »,« est mal au dos »,« mm-hmm. Ah, là, tiens, c'est drôle, tu fais de la fièvre, tu ne peux pas aller à la garderie. » Alors, notre cerveau nous envoie des signaux comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Ça aussi, ça peut être un signe comme quoi notre enfant là, vit peut-être de l'intimidation, surtout quand on sait qu'au niveau médical, bien, ça va bien. Il n'y a pas de problème digestif, mais comment ça qu'il y a mal au ventre? Alors ça peut être
faut être attentif à ça. Ouais. Christian et sa conjointe Karine ont eu le bon réflexe d'aller à la garderie ouais. assez rapidement, d'en discuter avec les enfants, les intervenants aussi. je vois que vous l'encouragez, cette initiative-là. Mm-hmm. Stéphanie, est-ce qu'il y a d'autres façons d'intervenir?
Bien, en fait, si nous-mêmes, on n'est pas à l'aise d'aller parler devant le groupe, ça pourrait être de parler avec l'éducateur ou l'éducatrice, avec la direction du milieu de garde pour aborder la situation. Et peut-être qu'à ce moment-là, eux, ils ont le personnel ou les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce genre d'atelier-là. Mais je pense que surtout lors de la petite enfance, puis même enfance, adolescence, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'informer les gens, de les sensibiliser pour générer de l'empathie, de l'ouverture, de la compréhension et de l'acceptation.
À cet âge-là, ça ne prend pas grand-chose non plus.
C'est ça.
Juste un dessin, une petite explication, ne pas rester longtemps.
Puis le nombre de fêtes.
Le nombre de fêtes, ça, c'était tellement important. C'était réglé. Puis après ça, ça a vraiment bien été. Mon garçon, il disait des fois, ça va-tu bien? Y a-tu quelqu'un qui t'a... Non, ça va super bien. Ça...
Wow.
Mm-hmm. Et déjà, il était plus enjoué, puis ça allait vraiment bien. Puis...
Ouais.
On en parlait, Stéphanie, tout à l'heure. J'ai l'impression que parfois, les préjugés, c'est quasi inévitable. Mm-hmm. C'est-à-dire, on en a tous, que ce soit par rapport à l'apparence de quelqu'un, son handicap, son mode de vie. Bon, est-ce qu'il y a des façons d'amenuiser ça, de changer un petit peu notre façon de penser?
En fait, je dirais, d'une part, en tant que parent et en tant qu'adulte, membre de la société qui avons à interagir auprès des enfants, on est des modèles pour eux. Des modèles d'imperfection, certes, mais des modèles. Alors, soyons indulgents
quand même, soyons réalistes.
Oui, c'est ça. Mais juste être sensible à ça, de dire, c'est quoi mon discours par rapport à tel groupe de personnes, par rapport à tel, justement, cette personne qui a tel mode de vie par rapport à cette personne qui est dans tel statut socio-économique, cette différence-là, cette autre culture-là. Quel est mon discours à moi? Et que je dis devant mes enfants ou j'en parle avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants sont témoins de ça, ça a un impact. Donc, déjà là, d'être sensible à ça et ensuite d'être capable d'aborder, vous parliez tout à l'heure de l'épicerie. Nous, ça nous est arrivé l'an passé. Mon conjoint a un fils qui est autiste et alors un enfant n'a pas de filtre. Lui, il y en a encore moins. Mmh. Alors, la madame, comment ça qu'il est petite de même, puis super fort. Okay. Puis Mathias, il a quand même 9 ans, tu sais. Alors, je lui ai expliqué, bien, écoute, c'est une personne de petite taille. Elle est comme ça parce que ses os ont grandi moins vite et là, ils ont arrêté. Mais tu vois, comme vous le disiez, c'est une personne qui est très autonome, qui fait ses choses. Il a probablement un emploi, peut-être même un amoureux ou une amoureuse, puis des enfants comme toi.
Elle écrit des livres sur l'intimidation. Elle a les mots, Stéphanie.
D'avoir ce genre de discours-là, c'est très très important.
Ce que je retiens, et on va se quitter là-dessus, Stéphanie, c'est beaucoup dans la communication, de réfléchir à trouver les bons mots. Oui. Et ça compte aussi pour l'intimidation. Ouais. Et là, j'en parle en tant que phénomène triste de société que l'on connaît en ce moment, que ce soit autant aujourd'hui, on l'entend envers les petits, les ados. On en a entendu parler beaucoup, notamment au printemps passé, dans les médias. On continue comment à parler d'intimidation qu'on soit. Et là, je m'adresse aux parents, autant de petits que d'ados. Il faut en parler qu'on est un enfant intimidateur ou intimidé.
Oui. Oui, tout à fait. Puis même avant ça, quand on est dans la prévention, voire même dans la promotion de bonnes habitudes et de bonnes habiletés sociales, on encourage justement de parler de ses émotions, développer l'empathie, la communication, l'ouverture. Quand on crée un lien de confiance avec notre enfant, bien, ça dure toute la vie. Donc, si éventuellement il est victime ou agresseur, on risque, nous, d'être plus sensibles aux signaux et il y a plus de probabilité que notre enfant nous en parle puis qu'on puisse l'aider.
Est-ce qu'un enfant intimidé a plus de chance de devenir un intimidateur?
Oui, les probabilités sont plus grandes. On sait que les enfants intimidés, par exemple, au primaire, ont plus de risques de devenir intimidateurs au secondaire. Donc ça veut dire aussi que, peut-être que nos interventions ne sont pas encore tout à fait appropriées et qu'il faut vraiment répondre aux besoins de ces enfants-là d'appartenance, d'estime personnelle et d'affirmation de soi.
Et on peut lire « Jeux d'enfants, leur juste sur l'intimidation » pour s'outiller un peu. Stéphanie Deslauriers, vous avez un site qui est très, très bien, ensemblemaintenant.com. On peut aller lire, vous avez différents intervenants et collaboratrices, psychoéducatrices, conférencières. Merci, c'est toujours un plaisir.
Merci infiniment.
Merci.
Au micro de Marianne Paquette, dans le cadre de Portrait de famille, présenté le lundi à midi et à 17h sur Canal M, vous entendiez Stéphanie Deslauriers et Christian Lapointe.
Les paractualités permettent de mesurer l'évolution de certains dossiers ou la stagnation d'autres. C'est ainsi qu'on apprenait cette semaine qu'il y a encore beaucoup trop de Canadiens qui ne veulent pas voir les qualités que des personnes vivant avec un handicap visuel à la recherche d'un emploi peuvent avoir. Actualité canadienne maintenant, de nombreux Canadiens demeurent aveugles devant les aptitudes et les compétences des chercheurs d'emploi vivant, eux, avec une perte de vision. 7 Canadiens sur 10 choisiraient un candidat voyant plutôt qu'un candidat aveugle. La campagne Employabilité d'Inca invite les employeurs à voir au-delà de leurs préjugés. Pour marquer le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées, Inca lance la campagne Employabilité et invite les employeurs canadiens à voir au-delà de leurs préjugés et à embaucher des personnes aveugles ou ayant une vision partielle. La perte de vision ne fait pas de discrimination. Elle peut survenir à tout âge et avoir des conséquences néfastes importantes sur l'employabilité d'un individu. Le Canada compte actuellement 500 000 de personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Et ce nombre croît sans cesse. Ces personnes représentent un important segment de la population et parmi celles-ci, on compte plus de 100 000 adultes aptes à travailler. Or, le taux d'emploi des Canadiens vivant avec une perte de vision est remarquablement bas, soit 38 % contre 73 % dans le cas des personnes non handicapées. Et de surcroît, près de la moitié des Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle ont un faible revenu, soit un salaire annuel de 20 000 $ ou moins. De nos jours, travailler avec un collègue aveugle ou ayant une vision partielle, c'est comme travailler avec n'importe quelle autre personne. Et les personnes vivant avec une perte de vision mènent de brillantes carrières dans des domaines comme les sciences, le droit et les technologies. Alors la campagne Employabilité d'Inca offre une série de messages d'intérêt public qui bouscule les préjugés et les idées préconçues concernant la vie au travail en compagnie d'un collègue vivant avec une perte de vision. Ces messages, réalisés grâce au financement du gouvernement du Canada, mettent en vedette des personnes aveugles et non des comédiens. Il s'agit de David Demers, qui a perdu la vue juste avant de franchir le cap de la trentaine et qui, à 35 ans, est directeur du développement des affaires et des relations publiques chez eSight. Il s'agit aussi de Marilyn Gélina, qui a été infirmière pendant 9 ans avant de perdre son emploi en raison de sa déficience visuelle. Alors, ils sont les « vedettes » entre guillemets de ces messages télévisuels diffusés en français, que vous pouvez aller voir, nous vous invitons à les visiter sur le site de inca.ca, employabilité, évidemment pas d'accent, et comme ça se prononce, comme ça s'articule, et comme ça s'appelle, employabilité, pour obtenir de plus amples renseignements, notamment pour aller voir ces petites capsules-là, mais en plus pour obtenir des renseignements sur l'embauche d'une personne aveugle. Marianne Paquette s'inquiète de ce qui est bon pour la santé. Et cette semaine, elle s'est posé cette question. Comment communiquer avec son enfant sourd et aveugle? Comment l'aider à anticiper la vie quotidienne et à découvrir le monde?
Je discute avec Gilles Lefebvre, il est conseiller en surdicécité, programme surdicécité du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre Sud de l'île de Montréal, ou si on veut faire un peu plus rapide, c'est l'Institut Raymond Demoire. Gilles Lefebvre, bonjour.
Bonjour, madame.
Donc, un nouveau guide pratique s'est sorti la semaine dernière. Ça s'appelle « Vivre au quotidien avec un enfant sourd et aveugle ». Premièrement, M. Lefebvre, je me disais, bon, ce guide-là, il est très bien fait parce qu'il est parsemé de témoignages de parents qui vivent cette réalité-là. Et d'entrée de jeu, on se dit, recevoir un diagnostic, bon, savoir que notre enfant vit non seulement avec un problème, une déficience auditive, mais également visuelle, c'est une charge d'émotions immense. Comment on peut expliquer les causes de la surdicécité?
Ah, mon Dieu! Il y a plus de 150 causes à la surdicécité. Mais je pense que d'abord, il faudrait parler des sortes de surdicécité. Mm-hmm. Il y a la surdicécité acquise. Alors, il s'agit de personnes qui, au cours de leur vie, deviennent sourdes-aveugles. Okay? Alors, ces gens-là ont atteint un certain niveau d'autonomie, une connaissance de leur environnement, ils savent qu'on peut communiquer, puis ils vont devoir s'adapter à leurs nouvelles conditions. Parce que les personnes sourdes aveugles, on parle de surdicécité congénitale, là c'est tout à fait autre chose. Parce que un enfant qui naît sourd aveugle, il ne pourra pas découvrir son environnement par lui-même, comme un enfant entendant, voyant, va être capable de le faire. Alors, tout va être montré à ces enfants-là.
Oui.
Alors, pour les parents, ça demande beaucoup.
Oui, surtout, et comme c'est le cas d'un couple de parents, lorsque c'est le premier enfant, on apprend à être parent, et on apprend à être parent d'un enfant qui vit avec une déficience et auditive et visuelle. Ça peut faire beaucoup au départ. Ce sont des enfants, comme vous le mentionnez, Gilles Lefebvre, qui ont du mal à entrer en contact ou à découvrir leur environnement. Donc, ça crée des caractéristiques assez particulières chez ces enfants.
Il faut dire au départ que les débuts de vie de ces enfants-là, ça commence par de nombreuses hospitalisations et puis de la souffrance physique, hein, dès la période là, néonatale. Mmh. Et leur perception du monde, elle est morcelée. C'est difficile pour ces enfants-là de donner un sens à ce qui se passe autour d'eux. La plupart des stimuli, à cause là, des nombreuses hospitalisations, puis des traitements médicaux et tout ça, pour ces enfants-là, ce qui est extérieur à leur corps, ça devient comme quelque chose de menaçant et d'agressant.
Ouais.
Alors, ça va demander là, vraiment une approche particulière qui tient compte, entre autres, de ça. Pour amener l'enfant à se développer, pour arriver d'abord à créer un lien avec l'enfant et puis l'amener à se développer éventuellement. Mmh.
Parlons-en de ce lien-là. Comment se crée l'attachement d'un parent avec son enfant qui vit avec une surdicécité?
Mon Dieu, créer un lien de confiance là, avec un enfant sourd aveugle, c'est sûr que c'est essentiel. Et puis... disons, c'est avec l'approche particulière qu'on va utiliser avec l'enfant sourd aveugle que éventuellement va se développer ce lien-là. Mmh. Un enfant sourd aveugle ne peut pas anticiper ce qui vient. Okay? Alors, il ne peut pas anticiper qu'il va être touché, par exemple, mmh. ou qu'on va lui mettre un biberon dans la bouche. Alors, dans notre approche, il va falloir trouver une façon de permettre à l'enfant d'anticiper qu'on entre en contact avec lui. Et c'est par la répétition de cette façon d'agir là que éventuellement l'enfant va comprendre. Il va comprendre les moyens qu'on utilise pour lui permettre d'anticiper. Et c'est comme ça que le lien de confiance va finir par se développer. Mais ça peut être long.
Ouais. Vous parlez dans ce guide, Gilles Lefebvre, mm-hmm. de coaction. C'est quoi la coaction?
OK. Un enfant qui voit, vite, il va développer là, une capacité d'imitation. Hein? Il va observer ce qui se passe autour de lui, puis il va essayer de faire la même chose. L'enfant sourd aveugle ne peut pas imiter parce que il est limité par sa déficience visuelle. Alors, disons, c'est une approche qui va nous, disons, en agissant avec l'enfant, C'est comme ça qu'on va lui inculquer petit à petit les gestes nécessaires pour toutes les actions là, de la vie quotidienne.
Ouais.
OK? Alors, en gros, la coaction, là, c'est ça.
Bon, on a parlé du développement du lien d'attachement. Il y a aussi tout le développement du langage, la communication, comment un parent d'un enfant sourd et aveugle peut y arriver.
C'est une grosse question. c'est qu'il va falloir d'abord, mais comme je vous le disais, là, il faut trouver des moyens de faire anticiper l'enfant, lui faire comprendre, lui annoncer ce qui s'en vient. Et il faut l'installer dans une routine quotidienne. Okay? Et le faire participer activement à cette routine quotidienne-là, justement, entre autres, par la coaction. Alors, en participant activement à sa routine quotidienne, ben l'enfant va développer une compréhension de ce qui se passe autour de lui et éventuellement, il va reconnaître des objets, il va reconnaître des instants de vie et petit à petit, soit que ce soit en parole ou en geste, en signe ou par l'utilisation d'objets en lien avec la routine quotidienne, mais c'est comme ça que l'enfant va finir par comment dire ça, que sa communication petit à petit peut se développer, mais ça peut être très long.
Ouais. Vous parlez dans le guide Gilles Lefebvre de routine, comme vous venez de le mentionner. Il y a cet exemple très concret de l'heure du bain, par exemple, où avant de plonger l'enfant dans l'eau, ça peut être bien de lui faire respirer l'huile moussante qu'on mettra dans le bain, de lui faire toucher l'eau avant. Donc, il y a vraiment aussi des étapes.
Bien, c'est ça. Non, si on prend justement là, cette activité-là, bien, on peut l'annoncer à l'enfant, on peut le lui dire, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'enfant fait de la parole qu'il peut percevoir partiellement. On peut lui faire le signe ou le geste qui correspond à aller prendre son bain aussi, mais on peut lui faire toucher d'abord, par exemple, comme sa débarbouillette.
Ouais.
Alors, peut-être une débarbouillette sur laquelle il y a un petit peu de savon. Alors, il va sentir l'odeur du savon. Puis, en touchant la débarbouillette, mais après la répétition, hein, après avoir fait ça plusieurs fois avec lui, il va comprendre que, on me fait toucher la débarbouillette qui sent quelque chose. C'est parce qu'on va aller me mettre dans quelque chose où ça va être chaud et tout ça. OK? Alors, c'est une façon, là, de... comment dire ça?
De sécuriser aussi, j'imagine, l'enfant dans cette routine.
Oui. De lui faire anticiper.
Oui.
Je reviens souvent à l'anticipation, mais c'est...
C'est un chapitre complet de votre guide, d'ailleurs.
Oui, mais constamment, nous autres, parce qu'on voit bien et qu'on entend bien, on anticipe constamment. Puis c'est ce qui nous permet de fonctionner de façon autonome et de se sentir confortable, en sécurité. Mais un enfant qui ne peut pas anticiper, s'il ne trouve pas les moyens pour le faire anticiper, mais il va passer son temps à sursauter. Vous voyez, alors, c'est très important, là, le principe de l'anticipation.
Oui. Depuis tout à l'heure, Gilles Lefebvre, ça fait des années que vous travaillez auprès de ces familles, une quarantaine d'années à peu près, je pense, du côté de Raymond Dewan.
Ça va faire 49 ans.
Oui. Vous en avez vu des familles qui vivent avec un enfant sourd et aveugle. Depuis tout à l'heure, vous parlez de « ça peut être long ». Ça peut être long. Est-ce que le principal besoin de ces familles, c'est la patience? Quel message vous donneriez à ces familles?
Bien, je pense que c'est des familles qui ont besoin du soutien d'intervenants, là, qui, eux, connaissent plusieurs enfants sourds aveugles. Mais le parent, c'est toujours la personne la plus importante pour l'enfant. Et puis, c'est toujours la personne qui connaît le mieux son enfant.
Oui. Le guide...
Attendez.
Oui.
Excusez-moi. Mais sauf, comme vous le disiez tantôt, il n'y a pas d'école pour devenir un parent. Hein? C'est à force de côtoyer les enfants qu'on comprend notre rôle de parent. Mais quand on a un enfant sourd aveugle, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, avant de comprendre les impacts de la sourdité sur le développement de notre enfant, ça peut être très déroutant.
Et avant aussi d'apprendre à prendre contact avec cet enfant-là, il est quand même privé, si je peux m'exprimer ainsi, de deux sens quand même assez importants, c'est-à-dire la vue, l'ouïe. Il faut créer ce contact-là, ce lien-là qui est assez privilégié avec notre enfant d'abord.
Oui. Mais c'est comme je vous disais tantôt, là, notre approche, comment entrer en contact avec cet enfant-là, mais c'est en respectant son besoin d'anticipation.
Oui.
Okay? Puis par la répétition des actes de la vie quotidienne, là, mais c'est comme ça que, comment dire ça, qu'on va amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui. Mais sauf que, comment dire ça, au départ, un parent qui devient parent d'un enfant sourd aveugle, c'est pas des notions qu'ils connaissent. Hein.
Oui.
Alors, c'est pour ça que nous, ça fait partie de notre travail de sensibiliser les parents à cette chose-là.
À leur rôle. Vivre au quotidien avec un enfant sourd et aveugle, comment on peut se procurer ou avoir accès à ce guide?
Il est disponible au comptoir à l'Institut Nazareth à Libraille à Longueuil.
OK, parfait. Donc, on glissera, nous, de notre côté, ce lien. J'ai le fait, vous êtes conseiller en surdicécité du côté de Raymond Dehoire, raymond-dehoire.qc.ca. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Je vous rappelle que l'émission « C'est bon pour la santé » est présentée le mercredi à midi et à 17h et c'est animé par Marianne Paquette. Si vous désirez vous procurer le guide pratique « Vivre au quotidien avec un enfant sourd aveugle » de Gilles Lefebvre, nous vous invitons à visiter le site de l'Institut Nazareth Louis Braille. Et pour vous tenir au courant de l'évolution des dossiers, des entrevues, des faits divers, des points chauds de l'actualité dans le milieu du handicap, eh bien, nous vous invitons à écouter Canal M. Je suis Clotilde Say, je voudrais remercier toute l'équipe de Canal M d'avoir activement participé à la réalisation de cette émission, Le National. Je vous souhaite une belle fin de semaine.